Bonjour à tous et à toutes. Nous voici à nouveau donc dans l'épître de Pierre, première épître, du verset 14 à 17 que vous voyez affiché sur le mur. À peu près un mois, nous étions donc sur le premier point, je dirais argument que Pierre utilise pour motiver les chrétiens qui sont les destinataires de cette lettre, à mener une vie sainte. Je voudrais juste rappeler rapidement, donc d'abord, le lire ensemble avec vous, 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 17. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Nous avons rappelé qu'à partir du verset 13 de cette épître, il y a un tournant dans la pensée de l'apôtre Pierre, parce qu'il va aborder maintenant un thème qui lui est très cher, à savoir vivre au quotidien une vie sainte. Et nous avons vu la dernière fois quatre raisons pour motiver ces chrétiens qui sont en proie aux souffrances, parce qu'ils sont persécutés. Quatre motivations pour les encourager à mener une vie sainte dans leur quotidien. Nous avons vu du verset 14 à 16, l'attribut de Dieu. Deuxième motivation, l'impartialité du jugement de Dieu, même s'il est leur père. Troisième source de motivation, verset 18 à 19, l'efficacité du sang de Christ pour purifier leur vie. Et quatrième raison, la puissance de la parole de Dieu pour vivre la vie nouvelle. Et nous avons proposé un plan pour au moins fixer nos pensées sur ce texte. D'abord, comme motivation pour mener une vie sainte au quotidien, c'est la personne de Dieu. Nous avons traité la dernière fois l'aspect que Dieu est saint. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au fait que Dieu est notre Père. Et la prochaine fois, Dieu voulant, nous traiterons le fait que Dieu est le juste juge. Mais non seulement comme source de motivation, il y a la personne de Dieu, mais nous avons parler aussi qu'il y a les ressources divines, à savoir le sang de Christ qui est tout efficace pour purifier leur vie. Et aussi la parole de Christ, parole de Dieu, pour que cette nouvelle nature puisse se développer en eux. Donc nous voilà donc sur ce point maintenant, Dieu est notre Père. J'aimerais proposer ce matin trois points pour traiter ce sujet. Qu'est-ce que on entend au sens biblique par le terme Père? Et j'aimerais juste montrer quelques passages, parce que le temps nous est imparti, où nous ne pouvons pas épuiser ce sujet tellement vaste en si peu de temps. Donc nous allons voir la manifestation de la paternité à travers des passages de l'Ancien Testament. Et après, voir la manifestation de la paternité vue à travers des passages du Nouveau Testament. Qu'est-ce que on entend par ce terme « père » ? Il semble qu'il est traduit du grec « pater » qui est le reflet du terme araméen Abba, qui signifie papa. N'oublions pas que Jésus parlait l'araméen. Et le mot Abba, qui signifie papa, met l'accent sur l'intimité. Ça, c'est à souligner, sur la proximité dans la relation entre le Père et ses enfants. Donc, la proximité, l'intimité dans la relation entre le Père, papa et ses enfants. Les disciples ont eu un privilège de voir pour une fois avec Jésus de leurs yeux et avec leurs oreilles constater cette proximité que Jésus a avec son Père céleste. Et cela, c'est cette prière dite sacerdotale dans Jean 17, où c'est une fenêtre, si je peux l'exprimer ainsi, où pour une fois, c'est une occasion inoubliable pour les disciples de voir Jésus dans cette intimité en parlant avec son Père céleste. Le contexte, il était 3 ans et demi avec les disciples. Le temps arrive où bientôt il va les quitter. Tandis que les disciples, ils vont rester dans ce monde. Et il prie, il levait les yeux, comme nous est dit dans Jean 17, et il parle à son Père. Et les disciples à côté entendent ce qu'il dit. Il parlait à son Père, lui demandait la requête de les préserver. Il s'adresse à son Père en demandant leur sanctification, leur unité, leur glorification. Mais par ailleurs, j'ai pris quelques passages du Nouveau Testament encore pour souligner cette proximité, cette intimité que Jésus avait avec son Père. Dans Matthieu 11, 26, il s'adresse à lui en disant « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dans Matthieu 26, 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Dans Jean 11, 41, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Donc, soulignons, quand Jésus a utilisé ce nom pour son Père, Dieu le Père, souligne l'aspect de l'intimité, de la proximité dans sa relation avec lui. Mais quand on dit Père, pour évoquer la paternité, implicitement, cela sous-entend qu'il y a les enfants. Et si nous avons comme Père, la Bible atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean confirme, et nous le sommes. Il rappelle encore au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Vous dites, mais est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous êtes enfants de Dieu si vous êtes nés de Dieu. Votre Père, 1 Jean 3, 9, nous le dit, nous le confirme. « Quiconque naît de Dieu est enfant de Dieu. » Quiconque, vous, moi, n'importe qui. Mais alors, si c'est possible, comment moi, personnellement, pourrais être sûr vraiment que je suis un enfant de Dieu? La réponse est dans 1 Jean. Tournez votre Bible à 1 Jean, chapitre 3. Comment je peux être sûr que je suis vraiment un enfant de Dieu? Verset 9, la réponse est là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Attention, Jean n'est pas en train de dire ici, et ou enseigner, qu'on arrive à un état de perfection où le croyant ne pêche plus. Ce n'est pas possible, parce que quelques versets avant, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Mais Jean ici est en train de donner deux principes. Comment je peux être sûr que je suis un enfant de Dieu? Il dit, premier point, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et deuxième chose, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Donc le premier point souligne l'attitude d'un vrai enfant de Dieu à l'égard du péché. Parce que quand vous êtes né de Dieu, la vie de Dieu, votre Père céleste, sa vie est en vous. Et si quelqu'un se dit enfant de Dieu et s'il continue à vivre dans le péché, cela montrerait que cette personne n'est jamais passée par une véritable nouvelle naissance. Ou si vous voulez, il n'est jamais né de nouveau. Donc un signe distinctif pour montrer que quelqu'un est né de nouveau, il ne demeure pas dans le péché. Mais le deuxième aspect, le principe que Jean dit, il souligne, je dirais, l'inconvenance ou bien l'incompatibilité plutôt que l'impossibilité de pécher. Quand il dit « ne peut pas pécher », cela souligne l'incompatibilité plutôt que l'impossibilité de pécher. Jean montre ici l'incompatibilité entre le péché et la vie d'un véritable enfant de Dieu. C'est pas compatible. C'est pas possible. Et il va dire juste au verset 10 pour justifier cela. C'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu des enfants du diable. Vous pouvez maintenant savoir, la parole de Dieu est claire. Comment je peux être sûr que je suis un enfant de Dieu? Il y a ces deux aspects que nous venons de souligner. Je vous ai dit tout à l'heure, en donnant la définition de la notion de Père, ce terme qui a été utilisé par Jésus pour parler à Dieu son Père, cela souligne l'intimité, la proximité, je le répète. Et ici, nous voyons une révélation majeure de la nouvelle relation que les croyants peuvent entretenir aussi personnellement à travers Jésus-Christ avec Dieu. Je le répète, c'est une révélation majeure ici de la nouvelle relation que les croyants peuvent entretenir avec Dieu personnellement à travers Jésus-Christ. À travers l'exemple de Christ dans cette intimité qu'il a avec son Père. Car dans l'Ancien Testament, pourquoi c'est une révélation majeure? Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais, je dis, vous ne verrez jamais un verset qui attribue à Dieu le nom de Père, afin qu'un juif puisse, de manière personnelle ou individuelle, avoir cette intimité ou proximité avec Dieu comme Père. Vous ne trouverez jamais un verset dans l'Ancien Testament qui attribue à Dieu le nom Père, dans le sens que nous venons de définir, afin qu'un juif puisse, de manière personnelle ou individuelle, avoir cette intimité, cette proximité avec Dieu comme un Père. Vous allez me dire, mais là, tu es allé trop loin là. Regarde Deutéronome 32,6,
Et lisons ensemble ce verset.
Là, je vois que l'Éternel en lui attribue le nom Père. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Ici, il faut bien souligner qu'il s'agit d'une image, ou si vous voulez, d'une analogie, mais pas d'un nom personnel qui est attribué à Dieu, comme Jésus l'a fait dans le Nouveau Testament. C'est dans ce sens que c'est une révélation, une révolution même. L'inauguration ou l'introduction de ce concept de Père quand il s'adresse à Dieu, il veut que nous ayons cette intimité avec notre Père céleste également. Donc dans ce passage, il s'agit d'une image ou une analogie, mais pas d'un nom personnel. Dans cette image, il sert à décrire l'attitude de Dieu envers son peuple qui l'a abandonné pour des idoles. Regardez avec moi Deutéronome 32, pour justifier cela. Deutéronome 32, c'est une image pour décrire l'attitude de Dieu envers son peuple qui l'a abandonné pour des idoles. Vous voyez au verset 15 de ce cantique, Moïse disait « Israël est devenu gras et il a régimbé, tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu son Créateur. » Verset 18, « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. » Et dans ce cantique, si vous le lisez tranquillement chez vous, on va utiliser l'image où Dieu est vu comme Père. Dans le verset 6, que nous affichons sous le mur, et Israël, vu et décrit comme ses fils, ses filles. Regardez verset 19. L'Éternel l'a vu, il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et au verset 20, il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle serait leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Donc c'est une image et non pas un nom personnel pour décrire l'attitude de Dieu envers son peuple qu'il a abandonné. Et Israël vu comme ses fils, ses filles, ses enfants, et Dieu comme père. Et au passage, il est important de souligner dans ce cantique de Moïse le contraste frappant entre les conduites idolâtres du peuple d'Israël et la manifestée de la gloire des attributs divins de l'Éternel. Je vais citer assez rapidement, on voit Dieu est fidèle au verset 4. Dieu est juste, il est droit, il est le rocher, verset 4, verset 15, verset 18, verset 31. Il est le créateur, verset 15. Il est souverain, verset 39. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris. Et c'est dans le même optique aussi qu'il faut voir ces versets dans Jérémie. Jérémie, chapitre 3, verset 4 et verset 19. Au verset 4, « Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Je disais, te mettrai-je parmi mes enfants, vous voyez, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. » Quel est le contexte ici? Ici, c'est Judas comparé à une femme qui autrefois aimait passionnément l'Éternel, mais qui a changé et est devenu infidèle, au verset 13. Vous pouvez le voir, Jérémie chapitre 3. Parce qu'il se prostituait, il est allé vers d'autres dieux étrangers. Et Jérémie rappelle, dès le début du chapitre 3, il s'est prostitué en parlant de Judas avec de nombreux amants. Voilà le contexte. Et ici, on voit encore l'image ou l'analogie où Judas est décrit comme « mes enfants », verset 8, verset 19. Et l'Éternel décrit comme « père, mon père », verset 4, verset 19. Et encore à nouveau, comme nous venons de voir dans Deutéronome, l'image est là pour décrire l'attitude de l'Éternel envers Judas, qui s'est prostitué en abandonnant l'Éternel pour des dieux étrangers. C'est une image, mais pas un nom personnel. Où individuellement on peut avoir cette intimité, cette proximité, comme nous l'a montré Jésus dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut retenir que dans l'Ancien Testament, le peuple juif aussi reconnaît Dieu comme père de la nation, uniquement sur le plan collectif. Le peuple juif reconnaît Dieu comme père de la nation, uniquement sur le plan collectif. Jamais dans cette intimité, comme Jésus l'a montré, de manière individuelle. Et pour prouver cela, regardez Ésaïe 63, verset 16. Et Ésaïe 64, verset 7. Ces deux versets qui font partie de cette longue prière d'Ésaïe. Et cette prière commence au chapitre 63, verset 7, et se termine au chapitre 64, verset 11. Et dans cette prière, Ésaïe s'identifie au peuple de Dieu en captivité, et il implore la délivrance de leur pitoyable condition. Regardez avec moi Ésaïe 63, s'il vous plaît. Et à plusieurs reprises, nous voyons bien, en tant que collectif, sur le plan collectif, c'est le peuple qui est visé ici. À plusieurs reprises, il cite « ton peuple ou mon peuple ». Regardez le verset 8. Verset 11. Verset 18. Verset 19. C'est toujours « ton peuple », vu dans son aspect collectif. Ésaïe 64, verset 8. Ici, Ésaïe rappelle à l'Éternel qu'il est leur père à titre collectif. Parce qu'en tant que peuple, même dit-il, si Abraham et Israël, les grands patriarches, devraient ne pas le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement, deux choses. Quand ce terme « père » est utilisé, attribué à l'Éternel dans l'Ancien Testament, il s'agit d'une image ou analogie, mais jamais un nom personnel. Et cette image sert à dépeindre ou décrire l'attitude de l'Éternel envers son peuple. Deuxième point que nous venons de dire, le peuple juif reconnaît l'Éternel comme père de la nation en tant que peuple sur le plan collectif. Jamais dans une relation individuelle avec cette intimité et proximité, comme Jésus l'a révélé dans le Nouveau Testament. J'aimerais maintenant regarder la manifestation de la paternité à travers des passages du Nouveau Testament. Je tiens à préciser que les quelques versets pour souligner des aspects ou traits de caractère du Père n'est pas seulement vu dans l'Ancien Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien Testament, parce que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et dans le Nouveau Testament, c'est frappant que le terme Père est utilisé 369 fois, si je ne me trompe pas. Et il est utilisé par Jésus 150 fois, plus de 150 fois, seulement dans l'évangile de Jean, pour parler de son Père. J'ai mentionné, pour décrire cette intimité que Jésus a avec son Père, dans cette prière sacerdotale dans Jean 17, qui était une occasion inoubliable pour les disciples de voir, d'entendre à travers cette prière l'intimité de Jésus avec son Père céleste. Jésus a révélé cette intimité avec son Père à ses disciples. Il me semble, parce que pour que eux aussi, à leur tour, soient encouragés à avoir personnellement cette intimité avec leur Père céleste. Et il en est de même pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Jésus nous apprend qu'il nous faut voir Dieu comme notre Père. et s'adresser à Dieu comme un père. Je vous avoue mes lacunes personnelles à cause de mon vécu dans le passé. Pour la prise en compte de cette réalité, quand je m'approche ou je m'adresse à Dieu. Ce que je veux dire, je peux formuler en tant que vérité théologique, quand je prie ou je m'adresse à Dieu, formuler ce terme Père, mais je ne réalise pas ou je ne mesure pas toutes les portées de manière pratique. Concrètement, et qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai du mal à voir dans le mot Père la signification agréable que ce terme est censé communiquer. Papa. Un père tendre. Car cela m'arrive encore d'avoir à l'esprit qui vient tout de suite quand on entend le mot père, l'image d'un Dieu comme étant un juge sévère, pas un père. Souvent ça me revient. Parce que j'ai toujours cette idée que Dieu, si jamais je fais une bêtise, une erreur, tout de suite il va me taper. C'est l'image qui m'est survenue toujours de cause de mon passé. Au lieu de voir Dieu, quand je m'approche de lui, que je ne suis pas devant le juge, mais avant tout un père. Je tiens à le dire quand même que c'est une erreur. Et je le dis haut et fort. Il faut combattre de telles pensées, parce que cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour notre conduite et notre vie chrétienne. Notre vue de Dieu. Et n'oublions pas le passage sur lequel se base notre texte, notre réflexion. En 1 Pierre 1,17, il est dit, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il est en train de dire, bien que Dieu soit un Père qui nous aime, Dieu va aussi nous juger. Donc notre conduite doit changer en vue de ce jugement futur. Ce n'est pas parce que Dieu est notre Père qu'il n'est pas notre juge. Bien que nous sommes enfants de Dieu, nous devons penser que Dieu, notre Père, va juger nos œuvres. Et la Bible est très claire à ce sujet. Mais ce sera l'objet de notre méditation la prochaine fois. Regardons ensemble quelques aspects. Comme je vous ai dit, on ne peut pas couvrir ce sujet tellement vaste, mais glaner ici et là des passages du Nouveau Testament pour refléter les traits de caractère de Dieu notre Père. D'abord, j'ai vu, et je voudrais rappeler que Dieu veut une relation de proximité avec ses enfants. Dieu veut une relation de proximité, une intimité avec ses propres enfants. Et vous avez devant vos yeux, affichés sur le mur, des passages tirés de l'Épître aux Hébreux. Il y a 6 passages qui nous montrent cet aspect que la Bible insiste sur l'aspect que Dieu veut une relation de proximité avec ses enfants. Hébreux 4,16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce où Dieu siège. Hébreux 7,19, une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 7,25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de qui? De Dieu. Par lui, par Jésus-Christ. Hébreux 10,1, la loi ne peut jamais rendre parfait ceux qui s'approchent. 10,22, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. 11,6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est souligné pour montrer cette vérité que tous ces versets ont un point commun, le verbe s'approcher.
Il est important de rappeler que l'auteur des Épîtres aux Hébreux veut convaincre ses destinataires. N'oublions pas qui sont d'origine juive. Il veut leur montrer l'excellence de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Et ici, chose impossible dans l'Ancien Testament de s'approcher de Dieu est devenue possible. Nous allons revenir. Impossible dans l'Ancien Testament de s'approcher de Dieu est devenue possible grâce à l'excellence de la Nouvelle Alliance basée sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes invités à le faire. Je vais juste vous montrer que c'est impossible dans l'Ancien Testament en donnant quelques passages. Exode 3.5 qui nous rappelle quand Moïse était sur le mont Horeb, qui a vu le buisson en feu qui ne se consume pas. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Oui, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et notre événement dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné à Moïse la loi, il nous est dit dans Exode 19:12, tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Fixera des limites pour ne pas s'approcher. Et nous connaissons tous, lorsque le tabernacle a été construit, on peut encore pour montrer presque l'impossibilité de s'approcher de Dieu qui montre sa présence dans le lieu très saint. Impossibilité pour le peuple de s'approcher de Dieu dans le lieu très saint. Il y a trois barrières dans le tabernacle. Rappelez-vous, première barrière, ce qui limite l'intérieur du parvis et l'extérieur du parvis. Et quand vous êtes dans le parvis, imaginez maintenant, il y a une deuxième barrière entre le parvis et le lieu saint. Et une troisième barrière entre le lieu saint et le lieu très saint, le voile. Et c'est pas tout le peuple qui a accès dans le lieu très saint, c'est uniquement le souverain sacrificateur, une fois par an. Et pour donner encore un autre exemple, dans l'Ancien Testament, c'est difficile de s'approcher de Dieu. C'est que quand on doit déplacer l'arche de l'Alliance, il fallait que le peuple soit à une distance d'environ 2000 coudées par rapport à l'arche de l'Alliance. Josué 3.4, mais il y aura entre vous et elle, en partant de l'arche de l'Alliance, une distance d'environ 2000 coudées. Et il est dit, non, n'approchez pas. Oui, l'homme ne pouvant pas s'approcher de Dieu, mais c'est Dieu en Christ qui s'est approché de l'homme. Grâce à l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ sur la croix, nous avons été approchés de Dieu. Et l'apôtre Paul confirme cela en parlant à ces païens et que nous sommes dans Éphésiens 2.13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous sommes maintenant invités à nous approcher de Dieu, à vivre de manière personnelle et individuelle une relation intime avec lui comme un père. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où accédait le souverain sacrificateur, comme je l'ai dit une fois par an, au grand jour des expiations, est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, quand Christ a été sur la croix. Pour montrer que nous avons maintenant accès en tant que croyants individuellement à la présence de Dieu sur la base du sacrifice de Christ. Nous avons un grand privilège et nous sommes invités à nous approcher de lui parce que l'accès est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. J'ai vu à travers le Nouveau Testament aussi ce fait que Dieu veut être en communion avec ses enfants. En communion avec ses enfants. 1 Jean 3, 4. Ce que nous avons vu, ces gens qui parlent, quand il dit « nous », il cite les apôtres, et entendu, « nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, en parlant de ces destinataires qui sont des croyants, en communion avec nous, il précise, « or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Ici, l'apôtre Jean veut rappeler à ses destinataires qui sont des croyants l'importance de vivre dans la communion avec les chrétiens. Ici, peut-être dans ses pensées, il vise le cercle des apôtres quand il parle de nous. Il cite en tant qu'apôtre. Il explique que notre communion les uns avec les autres découle et dépend de notre communion avec Dieu, le Père, et avec Jésus-Christ, le Fils. Ainsi, notre communion les uns avec les autres est impossible sans la communion avec le Père et le Fils. Et en développant ce thème, il dit pourquoi, quel est le but qu'ils écrivent ceci, c'est afin que notre joie soit parfaite. Vous pouvez prendre de deux manières, notre, qu'est-ce qui est visé dans ce notre? Si vous considérez notre uniquement le cercle des apôtres, rappelez-vous que les apôtres avaient toujours le même amour que Christ a pour son peuple. Et que leur joie, leur propre joie était liée au bien-être spirituel de ceux envers qui ils exercent leur ministère. Mais si on considère notre, c'est-à-dire le cercle des apôtres et les destinataires, et c'est-à-dire nous les croyants en général, on peut souligner qu'une joie durable au cœur de l'homme ne peut provenir que par la communion personnelle avec Dieu et Jésus-Christ. Et cela se découle aussi dans notre relation avec les chrétiens, quelles que soient les circonstances. J'aimerais vous poser cette question, où en êtes-vous ce matin par rapport à votre communion avec le Père et Jésus-Christ? Car de cela dépend votre communion avec vos frères et sœurs. Il est clair que de cela, vous pouvez récolter, ici-bas dans votre vie, la joie parfaite, complète, au défi de toutes circonstances. Et Dieu veut que nous expérimentions de telles choses en commençant par régler notre communion avec lui comme Père. Troisième exemple de la manière d'agir de Dieu en tant que Père envers ses enfants. Dieu pourvoit nos besoins. Matthieu 6, verset 25 à 34, vous l'avez affiché sous vos yeux, je ne veux pas le lire. Mais ici, Jésus attire notre attention sur l'inquiétude. L'inquiétude est un péché, car c'est un refus de voir que Dieu s'occupe de notre vie dans tous les moindres aspects. Et on peut voir dans ce verset deux points importants, où Jésus montre la folie de ce manque de confiance dans notre Père. Non seulement la folie de ce manque de confiance, mais aussi la futilité, c'est inutile, ça ne sert à rien, de ce manque de confiance dans notre Père Céleste. Donc, il pourvoit nos besoins, et Jésus est en train d'enseigner que c'est une folie de s'inquiéter, de ne pas faire confiance en Dieu qui s'occupe de nous, et c'est futile. Pourquoi c'est une folie? Parce qu'il dit, si Dieu au verset 26, si Dieu s'occupe des créatures moindres que sont les oiseaux, à combien plus forte raison ne s'occupe-t-il pas de ses enfants? C'est logique. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? Il dit que c'est une folie parce que l'inquiétude, par l'inquiétude, nous nous ressemblons à ceux qui n'ont pas d'espérance. qui bâtissent leur vie et qui ont pour raison de vivre que pour les choses matérielles. Nous nous ressemblons à eux. Et c'est une folie pour un enfant de Dieu de vivre comme cela et avoir uniquement cela comme but et raison de vivre. Il va dire, troisième raison, c'est une folie. Parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour les choses matérielles. Au contraire, nous avons besoin de mettre des priorités avant tout les choses qui concernent Dieu et son royaume. Et cela, il s'en occupera. Maintenant, pourquoi c'est futile de s'inquiéter? Tout simplement, il dit au verset 27 que l'inquiétude est inutile car elle ne change en rien la situation. Ou ne fait que faire subir et aggraver, toucher votre santé. Mais ça ne changera rien en la situation. Pourquoi c'est futile? Il dit aussi au verset 34 qu'il est inutile de s'inquiéter pour le lendemain. Car tous les soucis que nous pouvons faire aujourd'hui pour notre futur ne vont pas alléger les difficultés de demain. Alors, frères et sœurs, si c'est une folie et une futilité de s'inquiéter, saisissons les promesses pour nous ici de chercher d'abord les choses d'en haut et Dieu s'occupera du reste. J'ai vu et aussi quelques versets ici en face de vous pour montrer comment le Père, Dieu notre Père, agit envers nous. Il préserve ses enfants. Et si vous voulez, il protège ses enfants. Jean 17, 11, encore cette prière que nous avons évoquée tout au début, verset 11. Jésus maintenant va quitter ses disciples. Il va aller auprès du Père, au ciel. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Ça, c'est le contexte. Et il adresse cette requête. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Au verset 13, un peu plus loin, il dit, lorsque j'étais avec eux pendant les 3 ans et demi, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Jésus était avec eux pendant 3 ans et demi, mais maintenant il va les quitter. Pendant ces 3 ans et demi, les apôtres n'ont pas été l'objet direct de l'hostilité des ennemis de Jésus. Mais il dit, il sait, mais ça va être bientôt le cas après son départ. Pourquoi Jésus priait pour leur préservation? La réponse est dans ce verset. Pour promouvoir l'unité au sein des croyants, sur le modèle de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Comme il dit, afin qu'ils soient un comme nous. Mais un peu plus loin dans ce chapitre, nous savons aussi que nous avons besoin de la protection du Père contre le malin. Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Verset 15. Oh, quelle sécurité de savoir qu'on a la protection la plus sûre, celle de notre Père. Il est fidèle, il peut l'assurer, sans faille. Paul dit ceci, et nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, qui? C'est le Père. Et fidèle, c'est lui qui le fera. C'est-à-dire pour nous garder, pour nous préserver. Dieu aussi, à travers des passages du Nouveau Testament, quelques-uns, use de bonté, use de patience, de longanimité. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quel est le contexte ici? Dans le chapitre 1, Paul vient de traiter les situations des personnes qui sont probablement des païens. et qui se sont abaissés à commettre des péchés odieux, qui est décrit, vous pouvez lire chez vous, chapitre 1, verset 29 à 31, qui sont sous la condamnation de Dieu. Donc, parlons des païens, avec des conduites immorales. Ils sont sous la condamnation de Dieu. Et dans le chapitre 2, il va traiter maintenant la situation des personnes, entre guillemets, plus morales que ces païens, plus religieux qu'eux, et ces gens qui sont plus morales et plus religieux condamnent la conduite de ces païens que Paul évoque dans le chapitre 1. Mais Paul dit que eux-mêmes, soi-disant plus morales, plus religieux, commettent les mêmes péchés, mais de manière, je dirais, un peu plus raffinée. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir ce verset où Paul cite maintenant « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de son longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse aussi à la repentance ?» Paul dit aussi qu'ils ont besoin de se repentir. Nous avons dit « Dieu use de bonté ». Qu'est-ce qu'on entend par bonté ? C'est le mot en grec « Christotetos » qui signifie « ce qui convient » ou « ce qui est approprié à un besoin ».« Ce qui convient » ou « ce qui est approprié à un besoin ». Quel est le besoin ici de ces gens plus moraux et plus religieux ? Leur besoin, c'est de se repentir. Mais leur besoin, c'est de ne pas être ignorant de la bonté de Dieu envers eux. Dieu use de patience envers eux. Et le mot patience signifie retenir. Il s'agit d'un terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner une trêve. Donc la cessation des hostilités entre deux parties en guerre. Ici, Paul utilise ce mot en l'appliquant à Dieu, que sa patience s'exprime en retenant le jugement mérité face à la méchanceté et la rébellion de l'homme. Dieu suspend, Dieu retient. Et la longanimité, Dieu use de longanimité, ça exprime la durée que Dieu use par sa grâce pour exprimer sa bonté et sa patience jusqu'au moment inévitable du jugement. Oh, combien nous devons imiter notre Père dans ses traits de caractère. Et Jésus lui-même nous incite à le faire. Et, par exemple, dans Luc 6, 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, parlant de Dieu son Père. » Et nous devrions imiter dans ces traits de caractère. Pour terminer, la Bible, dans le Nouveau Testament, nous voyons un Père, Dieu, qui est le nôtre, qui corrige ses enfants. Hébreux 12, versets 6 à 10. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de l'averse tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Verset 7, « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Verset 8, « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour la vie ?» Verset 10, « Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Beaucoup de choses à dire dans ce passage, mais retenons quelques points. D'abord, le mot « châtiment » signifie l'éducation ici d'un enfant. Et l'éducation inclut l'instruction aussi bien que la discipline, la mise en garde aussi bien que la correction. Donc c'est un mot global pour signifier éducation. Mais dans ce passage, le châtiment vise donc la formation du caractère au travers de la persécution, parce que c'est chrétien. étaient dans le judaïsme avant. Connaissant le Seigneur, l'excellence de Jésus-Christ, ils ont quitté le judaïsme. Ils sont persécutés par ses compatriotes. Souffrent. Et alors, dans ce passage, le châtiment vise la formation de leur caractère au travers de cette persécution qu'ils subissent. Le châtiment de Dieu constitue la preuve de son amour. Verset 6, et qu'aucun de ses fils n'y échappe. C'est clair. Au verset 7, en se soumettant au châtiment de Dieu, nous lui permettons de nous former à son image. C'est important. Au verset 10, le but du châtiment de Dieu est de nous faire participer à sa sainteté. Nous avons parlé pourquoi nous considérons Dieu comme notre Père. Cet aspect, c'est une source de motivation pour la sainteté, pour mener une vie sainte. Et sur le moment, tout châtiment semble pénible. Mais nous recourtons plus tard une vie caractérisée par la justice. Chers frères et sœurs, avant de terminer, je voudrais juste vous partager le témoignage de Charles Spurgeon à ce sujet. Il disait ceci, « Je crains que toute la grâce que j'ai acquise au sein d'expériences faciles et agréables et au cours d'heures heureuses ne dépasse pas la surface d'une petite pièce de monnaie. En revanche, le profit que j'ai tiré de mes chagrins, de mes douleurs, de mes peines est incalculable. Je dois tant au marteau et à l'enclume, au feu et au rabot. L'affliction constitue le plus précieux meuble de ma maison. » À la lumière des faits que nous venons de considérer, sur Dieu en tant que Père, notre Père. N'oublions pas qu'il désire une relation de proximité avec nous, ses enfants. Il désire être en communion avec nous. Il pourvoit à nos besoins. Il nous protège. Il use de bonté, de patience envers nous. Il nous corrige pour notre bien. Combien ce quelques aspects, même si on n'a pas épuisé le sujet, suffit, et pour moi personnellement, m'éclairer pour que maintenant, quand je m'approche de Dieu, c'est plus dans mes pensées cette idée que Dieu, oh là, est juste qui va me taper, mais un Père à qui je m'adresse. Et ça m'a changé, je vous le dis franchement, de voir cela. N'oublions jamais que cela est une source de motivation pour mener une vie sainte. Pourquoi ? Parce que nous devons aussi, chaque jour, désirer à nous ressembler à Dieu en tant que Père, comme nous venons de le voir. Et nous l'avons précisé il y a un mois, que la sainteté a pour but leur ressemblance avec Christ. Parce que la volonté de Dieu a toujours été que ses enfants reflètent son caractère et être semblables à Christ progressivement, dès maintenant, sur la terre, dans nos attitudes, nos actions, nos paroles de tous les jours. Ce matin, parmi les auditeurs, peut-être il y en a ceux, lui ou celle, qui dit, mais je ne le connais pas, Dieu comme mon Père, de manière personnelle. Je ne suis pas né de lui, comme nous l'avons évoqué pour être ses enfants tout au début. Sachez, si c'est votre cas, qu'il est prêt à vous adopter dans sa famille, pour que vous deveniez ses enfants, son enfant. Comment ? Tout simplement, vous n'avez besoin que de croire en son Fils Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Comme il nous est indiqué clairement dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, en parlant de ses enfants, sont nés de Dieu. Amen.